Chapitre 29. S'il avait l'expérience du combat, Bannon ne s'était jamais impliqué dans une guerre. Du coup, à la nuit tombée, solide au poing, il entra dans l'arène au milieu d'un groupe de combattants. Lila et les autres Morassites lui avaient appris à se servir de ses poings, d'une massue et de couteaux, mais il préférait son épée. Avec sa lame terne et son pommeau sans ornement, l'arme ne payait pas de mine, mais lui non plus, et il fallait se méfier des apparences. Quand une lame coupait en deux un ennemi, qu'importait qu'elle brille ou pas. Malgré l'air frais du soir, Bannon portait un simple pagne de cuir et une paire de sandales, le modèle favori des combattants d'Ildakar. Très bientôt, l'excitation le réchaufferait. Même s'il ne doutait pas de ses compétences, l'idée de fondre sur des milliers de guerriers de pierre, enfin à demi, lui glaçait les sangs. Pendant que le Douma peaufinait son plan, les guerriers comme lui s'entraînaient pour être le plus performant possible le moment venu. Tout autour de l'arène, des torches faisaient briller le sable. Dans cette atmosphère crépusculaire, 60 gladiateurs d'élite et plusieurs officiers de la garde s'immobilisèrent dans l'arène, lestés de leurs armes d'entraînement. Naguère, l'arène d'Ildakar proposait des boucheries nocturnes aux spectateurs assoiffés de sang. En ces occasions, il n'était pas rare que des dizaines d'hommes périssent. Aujourd'hui, on ne pouvait plus s'offrir ce luxe, mais il restait l'exercice, tellement important pour la suite. Pour ne pas être gêné, Bannon avait noué sa crinière en queue de cheval. Quelques heures plus tôt, Lila avait suggéré qu'il la coupe, comme l'avait fait Nietzsche. « Un adversaire peut te prendre par les cheveux, te déséquilibrer, voire te briser la nuque. » Repenser aux cheveux devenus fous de Nietzsche avait fait frissonner le jeune escrimeur. Pourtant, il n'avait pas cédé.
« Je n'ai pas touché à mes cheveux depuis mon départ de Shiria. Ils font partie de moi. »«
Dans ce cas, tu pourrais bien laisser ta tête sur le champ de bataille. »«
Si possible, j'essaierai d'éviter. » »«
Tâche de réussir. Ça me ferait plaisir. » Le visage de marbre, Lila avait eu une lueur de tendresse dans les yeux. Inhabituel chez une Morassite, ça. En face de Bannon et de ses compagnons, elle se tenait au milieu de 6 autres Morassites. Si les runes gravées sur leur peau les protégeaient de la magie, elles étaient inopérantes contre l'acier, et les hommes d'Outros ne se battraient pas avec des sortilèges. Les guerrières en cuir s'en moquaient. Leur objectif, c'était de défendre Ildakar. Magique ou non, un adversaire était un adversaire. Depuis la fameuse nuit, Bannon s'était entretenu avec beaucoup de gladiateurs. En voulait-il aux Morassites de les avoir malmenés? Habitués à servir ses femmes et à dépendre d'elles, ces combattants aguerris ne se posaient plus depuis longtemps ce genre de questions. Le champion d'Ildakar, ce cher Yann, était aveuglément loyal à Adessa. Pourtant, la nuit des émeutes, elle n'avait pas hésité à le tuer. Un crime que Bannon ne lui pardonnerait jamais, pas plus qu'il n'oublierait un jour les exactions des Norukai. Mais Lila... Lentement et à contre-cœur, il comprenait de mieux en mieux sa façon de voir les choses. En ne lui passant rien, elle avait fait de lui un meilleur guerrier, des compétences qui lui sauveraient peut-être la vie face à une horde d'ennemis. Avec un bel ensemble, les Morassites dégainèrent leurs armes. Une épée courte dans la main droite, Lila serrait un fouet dans la gauche. Certaines de ses sœurs brandissaient un bâton, d'autres un crochet et d'autres encore une longue pique. Musclée comme un bûcheron, Genda se battrait uniquement avec ses poings revêtus de gantelets hérissés de clous de fer.
Toute forme d'échec est et restera inexcusable, rappela Lila. Lors de l'attaque, évitez de me ridiculiser en vous faisant tuer.
Quelques officiers de la garde eurent un rire nerveux, à tort car il n'y avait pas une once d'humour dans cette déclaration. Bien placés pour le savoir, les gladiateurs ne bronchèrent pas.
Ce soir, vous êtes là pour apprendre. Si vous vous en sortez bien quand viendra le jour décisif, vous n'aurez plus jamais besoin d'affronter Outros.
On va leur flanquer une déculottée,
lança une voix juvénile. Bannon se tourna vers Timothy, désormais vêtu d'un gilet de cuir. Dessous, il ne portait pas de chemise et son épée courte semblait bien trop lourde pour son bras droit malingre. La peau encore crayeuse, suite au sort de pétrification, il bougeait avec une raideur inhabituelle, mais son sourire aurait fait fondre une montagne de glace. Lila sembla apprécier son intervention.
« J'ose espérer que vous vous montrerez tous à la hauteur de ce brave berger. »
Certains combattants assurèrent qu'ils feraient de leur mieux pour y arriver. D'autres se moquèrent de ce jeune homme prétentieux, les officiers de la garde en particulier.
On se battra à tes côtés, Timothy,
dit Bannon. Les sept Morassis divisèrent le groupe en autant d'unités.
Dans la plaine, dit Lila, ce ne sera pas un combat chevaleresque, contrairement à un duel dans l'arène. Si vous ne protégez pas vos arrières, un ennemi n'hésitera jamais à vous transpercer le cœur avec sa lance. Oubliez l'honneur et l'éthique.
Elle passa les rangs en revue, foudroyant du regard tous ceux qui n'affichaient pas une confiance à toute épreuve.
Dans le même ordre d'idées, ne jouez surtout pas les preux chevaliers. Je ne veux pas des héros, mais des vainqueurs. La guerre n'est pas un jeu et on n'y distribue pas de trophées. Cela dit, certains d'entre vous pourraient être récompensés par l'une ou l'autre de mes superbes collègues.
Lila sourit, puis redevint grave.
Vous avez pour mission de protéger la ville et de défendre notre liberté.
Quelle liberté ?
Demanda un homme. Ancien esclave de maison, il s'était porté volontaire pour combattre.
Celle que vous avez gagnée récemment. Et si nous vainquons, vous pourrez en revendiquer plus.
L'homme planta la pointe de son épée dans le sable et ne broncha pas, tandis que Lila avançait vers lui.
« Si je m'étais enfui une nuit, dit-il, je serais libre. Beaucoup d'esclaves l'ont fait, ils sont heureux loin d'ici. Quelques villes de montagne, par exemple Stravera, acceptent les esclaves en fuite. Quand mon ami Garth a filé, il voulait que je l'accompagne, mais j'ai préféré me fier à Masque Miroir. Je suis resté pour qu'Ildakar fasse un jour de chaque individu un citoyen à part entière. Vous voyez le résultat ? La ville est une prison géante, j'aurais dû partir quand c'était possible. »
Lila s'arrêta si près du type qu'elle faillit se coller à lui.
« Tu crois pouvoir le faire ce soir, par exemple ? Te faufiler parmi des milliers de soudards ? Si ça te chante, ne te gêne pas ?»« Non, je reste et je me battrai. Ma décision est prise. La magicienne m'a convaincu. »
Lila recula un peu.
« Parfait. Ce soir, tu seras mon premier partenaire. Bannon, tu entraîneras Timothy. Donne-lui une bonne leçon, si tu en es capable. »
Quand Genda siffla, tous les combattants se mirent en garde. Kedra, Lies, Marla, Thorn et Richia se campèrent face au groupe qu'elles affronteraient. Un second sifflement de Genda lança les hostilités. Dans le vacarme du combat, Bannon vit du coin de l'œil la solide Morassit assommer en une fraction de seconde son premier adversaire. Du coup, il se félicita de devoir en découdre avec le berger. Ne doutant de rien, Timothy attaqua, sourire aux lèvres. Tout aussi détendu, Bannon para sans difficulté. Très brouillon, le jeune homme dépensait beaucoup d'énergie pour pas grand-chose.
« Comme moi, il n'y a pas si longtemps, quand j'ai acheté solide à Tanimura. »
Après de piteuses déconvenues dans une ruelle, il avait décidé de ne plus jamais être sans défense. Mais porter une épée ne faisait pas d'un homme un escrimeur. À un moment, Timothy se fendit avec tant d'énergie et d'imprudence que Bannon fut contraint de reculer. Mais trop souvent, dans sa furie désordonnée, le berger laissait des ouvertures dont le jeune escrimeur aurait pu profiter. Estimant que ça avait assez duré, il saisit la première occasion, abattant le plat de sa lame sur l'épaule de son adversaire. Il ne mit pas toute sa force puisque le but n'était pas d'estropier un allié. À sa grande surprise, sa lame rebondit, comme s'il avait frappé de la pierre. Profitant de sa perplexité, Timothy chargea, frappa comme un sourd et faillit lui arracher solide des mains.
« J'aurais pu te tuer, Bannon Farmer !»
triompha le berger.
« Prends garde à des adversaires de ma trempe !»
Bannon passa sous la garde du vantard et lui flanqua un coup sur le bras.
« Et moi, j'aurais pu te rendre manchot !»« Sans blague, ma peau est plus résistante que l'armure la plus solide. En plus, par la barbe du gardien, des bras j'en ai deux, et j'aurais continué à me battre !»
Autour des duellistes, les Morassites s'en donnaient à cœur joie contre leurs adversaires. Voyant que le sien, un vieux gladiateur, se battait sans conviction, Richia le fit tomber sur le sol et lui plaqua sur la poitrine la pointe de son épée.
« Ça ne t'intéresse pas ? Quand on s'en fiche, on crève. Souviens-toi de ça quand tu seras dans la plaine. »
Rouge comme une pivoine, le gladiateur se redressa, épousta le sable collé à sa peau par la sueur et le sang, et fit face à la Morassite.
« On passe aux choses sérieuses, Richia !»
lança-t-il avant d'attaquer avec la fougue d'un jeune homme. Lustré de sueur, tous les muscles douloureux, Bannon continua à entraîner Timothy. Bien que malingre, le berger débordait d'énergie, et son formateur finit par décider qu'il l'avait ménagé trop longtemps.
Tu es imprudent,
fit-il en abattant le plat de salame sur la cuisse de marbre du jeune homme.
Il faut prendre des risques, sinon comment réussirons-nous à 1 contre 100, voire plus?
Ignorant la réponse, Bannon attaqua de plus en plus violemment.
« Je vous amène 2 autres recrues !»
lança soudain une voix d'homme à l'entrée de l'arène. Genda siffla une pause, fort bienvenue à entendre les gars respirer comme des soufflets de forge. Le seigneur Auron avança, poussant 2 jeunes hommes devant lui.
« Mon fils Brock et son ami Jed accompliront leur devoir. Dame Olgia et moi les y avons vivement encouragés. »
Après s'être essuyé le front d'un revers de la main, Bannon observa les 2 jeunes nobles naguère si arrogants. Leur sinistre activité d'écorcheur les avait-elle ramenés à plus d'humilité? Pas sur le plan vestimentaire, en tout cas. Vêtus de soieries criardes, des bottes parfaitement cirées aux pieds, ils portaient en outre des épées d'apparat fraîchement sorties de chez un armurier, des armes qui n'avaient jamais vu l'ombre d'un adversaire, même à l'exercice. Plusieurs gladiateurs ricanèrent ouvertement. Mal à l'aise, Brock se tourna vers son père.
« Nous sommes des détenteurs du don. C'est avec des sortilèges que nous devrions nous battre. Apprends-nous. »«
C'est maintenant que tu y penses. Désolé, mais c'est trop tard pour cette bataille-là. De toute façon, savoir se battre comme n'importe qui ne fait jamais de mal. Allez, avancez !»
Lila approcha des 2 jeunes hommes. « Si vous voulez de l'action, il faudra vous déshabiller. » Ce n'est pas un thé dansant et vous risquez de salir vos jolis vêtements. » Sans montrer l'intention de se joindre à l'entraînement, Auron intervint.
« Ces soieries ont de bonnes chances de les protéger. Selon Olgia, elles amortiront les coups comme une armure. Jed et Brock sont ravis d'être en somme des cobayes. »
À leur mine, les 2 anciens amis de Bannon auraient donné cher pour être ailleurs. Bannon flanqua un petit coup de coude à Timothy.
« Nous allons les entraîner, » dit-il. En retenant nos coups.
Brock et Jed eurent un sourire méprisant comme s'ils étaient infiniment supérieurs à la plèbe.
Non, montrez-vous impitoyable,
dit Auron avec un sourire presque malicieux.
Les hommes d'Outros ne les ménageront pas.
Sur ces mots, le digne membre du Douma sortit de l'arène. Bannon et Timothy se campèrent face aux 2 gandins qui tirèrent au clair leurs lames d'opérette. Genda siffla de nouveau et tout recommença. Croisant le regard des nobles, Bannon se souvint de sa tirade contre eux dans la fabrique de peau. Très probablement, ça ne leur avait fait ni chaud ni froid. En tout cas, ils ne s'étaient pas excusés.
« Nous sommes tous dans le même camp, Bannon Farmer !»
s'écria Jed.
« Celui d'Ildakar !»«
Si nous gagnons, » dit Brock, « tes amis et toi, vous pourrez partir. Franchement, ce ne sera pas trop tôt. »
« Si tu savais ce que j'ai hâte !»
Sincèrement, Bannon en avait par-dessus la tête de la légendaire cité.
« Assez parlé !»
cria Timothy. Il attaqua Brock, qui recula stupéfié, puis tenta de lever son arme pour se défendre. Trop lent, il ne put rien faire contre le coup du berger qui s'abattit sur son bras, si fort que Bannon eut peur d'avoir un manchot dans le groupe. Mais la soie spéciale résista aussi bien qu'une cotte de maille. Malgré ça, Brock couina comme un cochon qu'on égorge, son bras blessé serré dans la main gauche. Timothy feignit de porter un coup mortel avec une conviction très réaliste. Jed dévia la lame du berger. Après ses amuse-gueules, Bannon et Timothy attaquèrent de conserve les 2 nobles.
« Ce n'est pas du jeu !»
s'indigna Jed.
« Oui, pour toi, se battre, c'est taper sur des statues et leur écrabouiller le visage, je sais. »
Les yeux rouges et le bras droit presque tétanisé, Brock trouva le moyen de discutailler.
« Nous en avons mutilé 100, soit plus d'ennemis que tu n'en as jamais affronté, Bannon Farmer. »«
Nous aurions dû en fracasser 100 fois plus, »
marmonna Jed.
« Là, tu marques un point, »
concéda Bannon.
« Mais bientôt vous devrez en découdre avec des soldats capables de riposter. »